sur les ondes de 8h48 FM.
Buzz Actually.
Bienvenue dans la rue Passe.
Oui, donc c'est pour ça que c'est le journal du sud de la France.
Hashtag, c'est parti.
Buzz Actually, le nouveau magazine de 48 FM.
Une émission un peu spéciale aujourd'hui, c'est pour ça que nous sommes un petit peu décalés dans les horaires et en plus un petit peu en retard en raison de la technique. Alors nous sommes en direct de l'espace événement Georges Frêche, vous pouvez d'ailleurs passer nous voir pendant l'heure qui vient. Une émission spéciale puisque Mende et la Lozère se sont mis en marche cette semaine et sont... Alors c'est facile, hein, je sais.
La blague est facile.
Mais oui, mais nous n'allons pas parler politique, nous allons parler loisirs. Et un loisir qui fonctionne bien en Lozère puisque nous avons un terrain de jeu magnifique. C'est donc de randonnée et de sport de nature dont nous allons parler. Alors nous sommes en direct.
Oui. Et la randonnée, ça va, on va en parler. Ça
bonjour Guillaume.
Bonjour Caroline. La randonnée n'est pas forcément qu'à pied.
Bien donc, évidemment, évidemment. Les activités sont très nombreuses autour de la randonnée.
Très bien, une petite virgule, on commence cette émission. Alors il y aura deux parties, deux grandes parties dans cette émission. Une première dédiée à la première partie de la semaine, les assises nationales des randonnées, des activités de pleine nature. Et une deuxième partie, plutôt autour du festival de la randonnée.
Ce
qui se passera des randonnées, effectivement, qui auront lieu cette fin de semaine sur Mende. Donc rendez-vous sur les coups de 13h30 pour cette deuxième partie.
Nous revoilà donc en direct de l'espace événement et de ces assises de la randonnée et des sports de nature avec une des organisatrices, Afsa Logero, qui fait partie du réseau RAPN. Alors vous allez nous dire exactement ce que c'est.
Bonjour.
Bonjour.
Merci de nous accueillir sur votre plateau ici. Le réseau randonnée activité de pleine nature, qu'on pourrait aussi appeler activité nature et sport nature, c'est un réseau social professionnel dédié à tous les agents de collectivité, les acteurs publics qui travaillent tout au long de l'année sur les thématiques des randonnées et sports de nature.
Et alors, Idéal Connaissance, qu'est-ce que c'est, comment ça se place par rapport à ce réseau RAPN?
Alors, le réseau RAPN, c'est un des réseaux, des 35 réseaux d'Idéal Connaissance. Idéal Connaissance, on est organisme de formation agréé pour les agents de collectivité. On existe depuis 32 ans et on suit l'évolution. Alors, au début, on avait commencé par faire des forums à base de fax et de réception de fax pour les questions des participants. Des membres du réseau, et puis maintenant on est à l'ère du web 2.0 et donc on pose les membres du réseau donc national posent leurs questions sur un forum dédié, une plateforme dédiée.
Très bien, et donc ça c'est donc le fonctionnement. Le réseau et Idéal Connaissance dans la thématique des activités de pleine nature et de la randonnée, c'est quelque chose donc, qui vit tout au long de l'année.
Oui, c'est ça. En fait, ce que l'on propose, c'est de pouvoir mettre en relation, on est une vraie interface entre tous les agents qui sont dispersés sur le territoire en France, métropole et outre-mer, c'est très important de citer. Comme vous le disiez, maintenant on a la possibilité de tous être connectés et de proposer une interface technique avec cette plateforme de forum, de questions, mais également de formation avec des webconférences, donc des formations et la spécialité que l'on fait, ce sont des formation webconférence donc à distance basée sur du retour d'expérience. C'est très important pour les collectivités de pouvoir voir ce qui est fait sur les autres territoires et pouvoir les transposer peut-être sur les leurs, en tout cas trouver les bonnes idées.
Et alors donc là pendant 2 jours, c'est un petit peu le territoire de la Lozère qui sert d'exemple du coup.
Exactement, chaque année en fait on a un peu comme un point d'acmé de la communauté randonnée activité de pleine nature d'Idéal et cette année on est très heureux parce qu'il y avait je pense une demande du territoire qui a, comme vous le disiez en préambule, a beaucoup de choses à proposer et puis je pense un dynamisme comme ce qui a été dit en séance plénière en ouverture par les politiques, très important d'avoir un territoire dynamique mais soutenu politiquement.
Alors, ces assises, est-ce que vous pouvez nous, nous donner déjà un petit peu les objectifs de ces assises, ce rendez-vous à Mende avec des représentants, donc si on a bien compris, de différentes collectivités qui viennent de partout en France.
Oui, l'objectif c'est que on puisse réunir physiquement, parce qu'on a un réseau social, on a une communauté de dernière génération. On l'a fait évoluer depuis 32 ans, mais c'est de pouvoir se réunir et se rencontrer physiquement et donc de créer ces synergies, parce que les territoires et les solutions de sport nature, de pôle nature dont on entend parler depuis ce matin, nécessitent de se rencontrer. Et aujourd'hui, on est ce lieu de réunion. Il y a un espace exposition aussi avec beaucoup de solutions qui sont proposées. Et puis, évidemment, des ateliers. On est là pour comprendre le comportement des pratiquants, savoir comment, en tant que collectivité, je peux communiquer, promouvoir mon territoire. Et on a donc un panel d'ateliers qui permettent d'échanger tout au long de ces deux jours de colloque.
Alors combien de personnes participent à cet événement ?
Alors on est très heureux parce qu'on a 250 participants. L'année dernière, on a eu très peu en fait de mois de différence sur l'édition d'avant, qui était à Saverne, et on était vraiment sur la même jauge. Et surtout, ce qui est la particularité cette année, c'est qu'on a un renouvellement des acteurs en présence, parce qu'on observe une nouvelle étape dans le paradigme des sports nature, avec le rapprochement assumé des collectivités, des services entre randonnée, sport nature et tourisme, tourisme des activités, pardon, et les sports nature, c'est-à-dire prendre vraiment le parti de dire on y va, que vous soyez pratiquant, que vous soyez touriste, si vous habitez à côté, on est là pour vous accompagner, vous proposer des offres qui soient gratuites ou dans un forfait, mais l'objectif c'est que on puisse mettre en valeur le territoire sur lequel on habite.
Peut-être dans le programme, avant de rentrer un petit peu plus dans le détail, on va aller à la rencontre de deux personnes qui tout à l'heure vont justement nous livrer un peu leur expérience aussi de cette randonnée, de cette façon de l'envisager. Peut-être vous pouvez nous donner un peu les moments clés, les étapes un peu fortes de ces deux jours.
Alors ce matin, on a déjà commencé à discuter, à travailler, et puis on va continuer. On a déjà des ateliers qui ont lieu sur la gouvernance, qui finissent qu'on discute sur les espaces naturels, les sports de nature, comment on travaille ensemble. Et puis en point d'orgue, on a des visites de sites, donc très importante ce soir d'aller voir sur le terrain, de ne pas être que en salle, d'aller se mouiller la chemise, comme on dit aussi, parce que c'est comme ça qu'on se rend compte des réalités de terrain.
Et vous allez aller où justement alors ?
Alors là, vous connaîtrez certainement plus que moi, je ne suis pas du coin, mais nous avons donc le tour du lac de Charpal et Plage des Bondons, qui vont être les deux destinations des congressistes.
Les deux sites effectivement emblématiques. Le Plage du Vendôme un peu plus emblématique en termes d'image, et puis après avec une randonnée qui est autour, qui est que je trouve très très longue pour remonter, je trouve ça impossible. Ça c'est un détail perso.
Alors pour la petite anecdote, on devait justement prévoir la descente en trottinette électrique, et finalement le temps de tout organiser, ce sera pour la prochaine fois, mais il faut effectivement expliquer qu'il y a aussi des choses qui sont un peu différentes et des activités, c'est pas que du sport nature mais aussi du loisir comme vous le disiez, et quand on parle d'activités de nature, on a aussi tout ce qui est du ludique avec sa famille, on part et ça peut être
La dimension familiale est importante.
Voilà, et le week-end vous avez un superbe festival qui va avoir lieu, et il faut dire que c'est pas uniquement pour les sportifs de haut niveau, mais que tout le monde, c'est accessible à tout le monde.
Oui, c'est un principe finalement que les activités de pleine nature, c'est il y a effectivement des pratiques qui vont être sportives de haut niveau, mais aussi de la pratique du quotidien quasiment.
Oui, parce qu'en fait
pour toute la famille.
On a l'impression que ça ne s'adresse pas forcément à nous, tout à chacun, alors qu'en fait on fait tous les jours, tous les week-ends pour certains, des petites activités, se balader autour, juste dans un site naturel, sur un sentier qui est balisé, pouvoir faire un petit peu de baignade, pouvoir se pique-niquer à un endroit et ensuite découvrir les petits sentiers environnants, c'est aussi partie prenante des sports et des activités de nature.
qui sont tout le temps en évolution. Il y a beaucoup de choses nouvelles. Vous parlez de la trottinette électrique, il y a un grand boom autour de ça.
Ah oui, tout ce qui est assistance électrique, comme on appelle, ce sont les vélos, les trottinettes, c'est un grand boom. Et je pense que ça va s'inscrire dans le
paysage. Et ça ouvre justement à des personnes qui n'avaient pas forcément accès à des choses un peu plus sportives.
Oui, et puis surtout, ça réunit différents publics. On est avec notion de familial quand on est sur des choses un peu sympas, avec des adolescents, on peut imaginer très bien, très facilement, partager un moment qui soit pas trop sportif et en même temps hyper rigolo. Et la trottinette peut être un exemple, mais on a tous les nouveaux sports qui arrivent ou qui sont développés, comme le longe-côte, c'est de la marche aquatique. Je sais pas si vous avez déjà vu, aperçu des groupes qui descendent dans l'eau en combinaison l'hiver. Voilà, ce sont des nouveaux sports. Et puis après, il y a tous ceux qui ont pris de l'ampleur et qui se sont structurés, comme le kitesurf, qui on entend bien sûr parler, mais voilà. Et la plus grosse explosion ces derniers temps, c'est sur le trail. C'est un phénomène vraiment en France. Et donc, aujourd'hui, sur les assises, ce sont toutes ces questions qu'on va aborder pour pouvoir accompagner toutes ces transformations et puis comprendre les comportements aussi des pratiquants.
Mais écoutez, merci beaucoup de nous avoir un peu donné ce panorama sur cet événement de deux jours. Et puis on va maintenant, dans une deuxième partie, rentrer un petit peu plus dans le lien avec le territoire et avec notamment Jean-Paul Guérin, directeur de l'IPAMAC, juste après ça. Bonjour Jean-Paul Guérin. Vous êtes directeur de l'IPAMAC. Alors dites-nous un petit peu de quoi il s'agit.
L'IPAMAC, c'est le nom de l'association qui regroupe les 10 parcs qui se situent sur le territoire du Massif Central, dont fait partie le parc des Cévennes, qui est un parc national, et puis 9 autres parcs régionaux, comme les Grands Causses, le Haut-Languedoc, le Causses du
Quercin,
et bientôt l'Aubrac. Donc, et bientôt l'Aubrac, qui sera le 11e parc de l'association des parcs du Massif Central.
Alors, dites-nous un petit peu comment vous voyez justement en tant que regroupement de parcs, donc qui avez des territoires justement et avec une nature préservée, etc. Comment vous voyez la conciliation randonnée?
Vous offrez le terrain de jeu, mais voilà. Il est fragile parfois.
Alors on offre le terrain de jeu et puis aussi les parcs font partie des partenaires qui l'organisent, le terrain de jeu, et qui aussi ont la volonté aussi de le développer. Et pour le coup, les parcs du Massif Central tous ensemble ont choisi une entrée commune qui est l'itinérance. Puisque pour le coup ça nous apparaît vraiment tout type d'itinérance, bien entendu douce, hein, mais ça nous apparaît vraiment comme un mode de découverte des territoires, des parcs, et au plus intime des territoires, dans les coins les plus reculés, les moins visibles, comme un vraiment beau moyen de découverte et de mise en valeur de ces territoires qui ont besoin d'intimité pour être découverts. Enfin, il y a quelques grands sites, mais c'est plutôt l'intérêt de ces parcs, c'est plutôt d'aller voir les petits lieux, le patrimoine vernaculaire, d'aller à la rencontre des gens, plutôt que d'aller tous à Rocamadour, par exemple, qui on peut déjà accéder par ailleurs. Mais c'est une belle étape d'itinérance, hein, Rocamadour. Mais on a l'occasion de le faire autrement, alors qu'il y a beaucoup d'autres sites qu'on ne découvre qu'à travers ces pratiques d'itinérance.
Vraiment, l'idée, c'est donc l'itinérance comme un moyen de découverte d'un territoire, d'imprégnation, de mise en relation avec des milieux, avec comment vous le concevez ?
Ben, c'est tout à fait ça, c'est un moyen de découverte, et puis c'est aussi un moyen de développement de ces territoires, parce que ça vous a pas échappé, mais la Lozère, c'est pas le département le plus habité de France.
ça vous a pas échappé.
Ça vous a pas échappé. Moi, ça non plus. Et donc, tous les parcs, même le Massif Central est un grand espace très, assez peuplement peuplé, il y a quelques métropoles, et c'est un c'est les territoires des parcs qui ont besoin aussi d'activité, et pour le coup, l'intérêt d'une pratique comme l'itinérance, où on fait des étapes, ça permet d'asseoir des services, des activités économiques, et d'asseoir y compris des services qui vont servir au quotidien des habitants. Donc, Sophie Bantel l'a bien souligné ce matin, en disant, c'est pas que des choses qu'on fait pour les gens qui viennent nous voir, ça permet aussi de maintenir un certain nombre de services pour des gens qui habitent à l'année, sans parler de l'activité eux-mêmes qu'ils peuvent avoir à l'année. Donc il y a bien les deux aspects dans cette pratique, qui reste malgré tout une pratique douce, hein, puisque on est sur des flux réduits, hein. Je crois que le Stevenson, c'est 6 à 8 000 randonneurs par an. On ne va pas comparer ça au chiffre de fréquentation d'une plage sur la côte languedocienne. Donc on est toujours sur des nombres qui restent faibles, avec des gens qui sont dans des états d'esprit respectueux et dans des territoires qui sont prêts à les accueillir. Donc les choses se passent en général très bien.
Sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, on est déjà dans des flux encore bien plus importants, autour de 20 à 30 000.
Oui, c'est ça, on est sur des flux qui sont de 20 ou 30 000, mais on reste toujours au final dans des nombres qui sont relativement faibles par rapport à ce qu'on peut avoir en instantané sur d'autres sites touristiques, même si, bien entendu, quand on arrive dans ces chiffres-là, va se poser la question, quelquefois, des services qui peuvent manquer, surtout en particulier en termes d'hébergement.
Alors, vous avez parlé d'itinérance et vous disiez que c'était un sujet de travail pour les parcs actuellement. Alors, si mes informations sont justes, il y a un grand projet sur lequel vous êtes en train de travailler, d'une grande traversée du Massif central.
Qui vous a dit ça? On ne voulait pas le divulguer. Non, on s'est attaché à des itinérances qui concernent les parcs. Donc, on travaille sur trois, en fait. La Via Arverna, qui est un chemin de Saint-Jacques, qui est plutôt sur l'ouest du massif. Le GR7, à travers... essayer de voir si le trail peut pas être une nouvelle pratique d'itinérance, et la grande traversée du Massif central en VTT, donc qui était un itinéraire qui existait, qui a été mis en place par une association, l'association Chamina, dans 95, et puis pour qui allait des volcans d'Auvergne à 7.
Et qui marche bien.
Et qui marchait bien, qui s'est un peu perdu, parce que pour le coup, c'est aussi un sujet qui fait quoi dans matière d'itinérance et dans l'entretien de ces itinéraires. Et ben c'est ce qu'on appelle dans le jargon des techniciens la gouvernance. Là, pour l'association Chamina étant plus là, dans sa forme originelle, il n'y avait plus personne qui en avait le souci. Et donc le réseau des parcs qui s'est trouvé légitime pour avec le comité régional du tourisme d'Auvergne pour essayer de relancer cette itinérance. Alors dans une échelle un peu plus importante, puisque notre ambition, enfin ce qui est en train de se faire, c'est que la grande traversée VTT du Massif central va partir du Morvan, des lacs du Morvan, et va arriver à Agde. Donc à Agde, comme tout le monde sait, il y a un volcan. Donc c'est un petit clin d'œil aussi. C'est aussi une manière d'arriver de manière plus qualitative sur au bord de la mer, parce que cette Montpellier, on avait quelques soucis d'itinéraire, et puis c'est aussi une manière de joindre les deux volcans.
Et donc ce projet concrètement pour nos auditeurs lauzériens, comment ça va se matérialiser?
Alors il va se matérialiser parce que par un nouveau balisage, puisque le balisage qui était le balisage VTT avec les deux ronds et la flèche donc qui existe depuis longtemps a pratiquement disparu. Donc nous travaillons donc avec en particulier les départements qui sont les aménageurs de la randonnée, hein, au niveau des territoires. Et donc ce nouveau balisage va être opérationnel au printemps 2018, qui nous permettra d'obtenir la labellisation à nouveau de grandes traversées au titre de la Fédération française de cycle. Et puis il y aura toute une partie de comment on appelle ça dans le jargon, mise en tourisme, et de faire émerger un certain nombre de tronçons de cet itinéraire pour différents types de clientèle. Donc on aura un tronçon sud, hein, la traversée de l'Hérault, on aura aussi un tronçon, un moulin Saint-Clermont avec un retour en train facile pour découvrir toute cette partie du Bourbonnais là, et puis d'arriver sur les volcans. Et avec un objectif, c'est que cet itinéraire soit praticable en VTT assistance électrique, ce qui veut dire non seulement des prises, mais ça c'est pas le plus difficile, mais ce qui veut dire aussi des choix de chemin qui soient pas trop techniques, pour que tout un chacun qui n'est pas forcément un expert en VTT extrême puisse l'emprunter. Donc on est vraiment dans un propos d'ouverture, vous échangez tout à l'heure avec l'intervenante précédente, c'est vraiment un vrai souci, c'est que pour le coup ces pratiques de pleine nature, ces pratiques de randonnée, elles doivent s'adresser à de plus en plus de gens. On a parlé tout à l'heure on vieillit, et la population française va être de plus en plus vieille. Il y a une grosse aspiration, une grosse montée en puissance de ces pratiques. Ça veut dire qu'on passe de clientèles les plus sportives vers des clientèles les moins sportives. Et donc, il faut que dans la manière dont ce qu'il leur est proposé, on puisse concerner les moins sportifs. Et pour le coup, l'assistance électrique, vous l'avez dit, c'est quelque chose de formidable. Ça dénature pas la pratique. Ça permet de pratiquer avec en étant un peu moins en forme, plus âgé, dans des configurations familiales diverses. Donc c'est un vrai bon outil d'ouverture.
Ça va nécessiter aussi, j'imagine, un travail avec les prestataires touristiques tout au long de l'itinéraire pour développer la réparation, le local de stockage, voilà, des vélos, etc.
C'est tout ce qui en marche. Et donc qu'on est en train de faire avec donc tous les partenaires locaux pour qu'effectivement il y a une mise en musique de tout ce qui constitue une itinérance, parce qu'une itinérance c'est bien sûr un itinéraire, c'est un chemin, c'est un fil, c'est un balisage, mais c'est aussi ce qu'on y trouve. Et si vous avez pratiqué l'itinérance, les bons souvenirs c'est les étapes,
bien sûr.
Donc c'est aussi pouvoir construire des accueils de qualité et des découvertes de qualité qui vont créer justement ces bons souvenirs et qui vont créer le bouche à oreille et qui va faire le développement de la pratique, qu'il soit par des réseaux sociaux ou par le bouche-oreille physique, mais c'est le même principe, c'est-à-dire on parle de ce qu'on connaît, et si possible, il faut que les gens en parlent bien pour qu'ils amènent leurs amis, leurs copains et tout un chacun qui aurait idée de consulter leur page Facebook ou autre.
Alors pour ramener à la Lozère, une des étapes de cette grande traversée du Massif Central en VTT, c'est le Giraldès chez la famille Amarger. C'est un endroit où on peut se créer vraiment du souvenir quand on est dans l'itinérance. Un lieu super, un élevage bovin au Brac avec aussi des aurochs et une famille formidable qui fait un accueil à la ferme absolument génial. Donc moi j'en ai entendu parler comme ça de cette traversée du Massif Central. Et vous avez raison, ce sont les étapes qui font le charme de cette itinérance.
C'est les étapes dont on se souvient, c'est qui crée les bons et les mauvais souvenirs aussi.
Oui, hein, parce qu'on peut avoir des mauvais souvenirs.
C'est vrai. Et après tout le parcours, de toute façon, on est dans des paysages qui sont très diversifiés, qui sont le plus souvent à couper le souffle. Et le plus, c'est de dont on parle, l'expérience vécue, le contact avec les gens, et on le retrouve dans ces occasions-là.
Très bien, ben merci beaucoup Jean-Paul Guérin, donc directeur de l'IPAMAC, l'association des parcs naturels régionaux et du PNC au sein du Massif Central. On suivra la mise en œuvre de cette grande traversée du Massif Central. On aura l'occasion de voir ça aussi se concrétiser dans les prochaines semaines, les prochains mois.
Merci à vous.
On poursuit cette discussion autour de randonnée et territoire avec Séverine Ikaoui, directrice de la FFRP, Fédération Française de la Randonnée Pédestre. Bonjour.
Bonjour. Qui a acquiescé sur l'idée des étapes et des bons souvenirs?
Les bons et les mauvais souvenirs.
Alors peut-être vous pouvez nous dire deux mots sur la FFRP, son rôle, ses missions, quel est votre rôle dans cette grande thématique de la randonnée?
Alors, on va faire un peu d'histoire. La fédération, elle est née il y a 70 ans. En 1947, un groupe de gens qu'on a jugés farfelus à l'époque ont commencé donc à tracer ces grands itinéraires qui sont les GR. Les origines de la fédération, c'est la conception, la création, le balisage des GR. Et puis, assez vite, en 1955, est venu le temps de l'édition, parce que bah, pour que les gens aillent pratiquer ces itinéraires, encore fallait-il les faire connaître. Et le premier topo guide a été édité donc en 1955. Donc tout ça, voilà, tout ça fait qu'aujourd'hui la France est dotée d'un réseau de quelques 180 000 km d'itinéraires balisés, dont à peu près 80 000 de GR et puis le reste en PR. Et puis à partir de 1978, la fédération d'abord est devenue une fédération sportive, et donc s'est occupée des pratiquants. Donc ça a été la création des clubs. Aujourd'hui, la fédération regroupe 3500 clubs et représente 230 000 licenciés. Et là, ben, ça a été, après l'histoire des chemins, ça a été l'histoire des pratiques. Alors oui, on parle beaucoup d'itinérance ici à Mende depuis ce matin, c'est la pratique originelle. Mais depuis, sont apparues des pratiques comme la marche nordique, hein, avec les bâtons, bien sûr la raquette à neige, la petite dernière, c'est la marche dans l'eau, la marche aquatique côtière, où on marche immergé jusqu'au diaphragme, en s'aidant ou pas d'une pagaie, donc une toute autre façon d'aborder le geste de marcher dans l'eau. Donc voilà, la fédération, c'est à la fois une histoire et puis c'est aujourd'hui une fédération sportive, donc qui a pour vocation de structurer, d'animer la pratique de la randonnée pédestre, de former les encadrants qui emmènent les groupes au sein des clubs. Et puis donc d'être à l'affût, on va dire, de toutes les innovations, toutes les nouveautés. Et puis c'est l'objet de notre présence à ces assises, de développer le plus possible de partenariats et de travail en commun avec les territoires. Parce que la randonnée, oui, sport, activité physique, mais surtout un des plus beaux moyens de découvrir les territoires, les patrimoines. Et on sait, quand on regarde les motivations des randonneurs, qu'elles arrivent souvent avant même l'entretien physique et le bien-être physique.
Qui marche aujourd'hui ?
Ah, tout le monde ? On peut presque répondre tout le monde. Mmh. Alors les études, alors après ça dépend des définitions de la marche de la randonnée. Bon, ça peut varier, mais on serait aux alentours de 30 millions de Français qui déclarent dans leurs loisirs ou dans les sports qu'ils pratiquent, ils mettent la randonnée. Alors on peut parler de la balade du dimanche après-midi avec les enfants comme de grandes itinérances sur plusieurs semaines. La définition est extrêmement large. Oui. Mais le sentiment pour les gens de pratiquer, de randonner, voilà, c'est à peu près 30 millions qui se déclarent. En France, la randonnée est structurée, alors, en club et de manière associative. Et là, la fédération, nous sommes au cœur de cette façon de randonner. Donc, je vous disais, 230 000 licenciés, 62% de femmes.
Ah, c'est intéressant, parce que c'est pas le cas de toutes les fédérations.
Voilà. Et une moyenne d'âge, une majorité, hein, plus de 60% des licenciés ont plus de 60 ans. Mais si on regarde les pratiquants, alors, on ne sait pas très bien les qualifier, libres, qui décident de randonner en famille, entre amis. Alors là, on a un profil un peu différent. Alors cette fois-ci, il est plus masculin. Mmh. Et il est plus jeune, avec des moyennes d'âge aux alentours de 45 ans. Donc ça, c'est la pratique de vacances ou de grands week-ends qui s'organise dans son cercle relationnel. Et puis, on a toujours, les jeunes version UCPA, où effectivement un certain nombre de jeunes d'une vingtaine d'années s'organiser une itinérance entre copains, là le côté un peu aventure fonctionne encore. En fait, il y a un trou sur les trentenaires, ou alors ce qu'on analyse, c'est que soit ils sont en grande forme et ils font des sports physiquement plus engageants,
sportifs, hein, entre guillemets, voilà. Oui.
Ou alors ils sont déjà empêtrés avec des enfants en bas âge et lèvent un peu le pied sur la pratique.
Alors peut-être, vous avez présenté ce matin en plénière la prospective de la randonnée, c'est-à-dire finalement un peu quels sont les enjeux d'avenir que vous avez identifiés. Alors là, on voit, vous avez fait un peu le portrait d'aujourd'hui. Alors quels sont les axes vers lesquels et la fédération, j'imagine, accompagne, et qu'est-ce que vous identifiez pour cette évolution de la randonnée?
Alors, au niveau de la fédération, et parce qu'il faut choisir, pour moi, il y a deux enjeux extrêmement importants. Il y a cette fichue révolution numérique, où effectivement, nous sommes en train d'apprendre à travailler différemment, à utiliser des outils différents, géolocaliser les données, les actualiser à travers des flux réguliers, pouvoir après les resservir via Internet.
On a avec le chemin du Haut-Allier, des sources de l'Allier, un des premiers chemins
qui ont été mis en appli mobile, voilà, absolument. C'est ça, hein. Donc on a commencé. On a aujourd'hui un millier de collecteurs bénévoles de la fédération qui collectent de la donnée et qui la gèrent. Mais alors voilà, et demain, parce que le problème de ce numérique, c'est qu'on a déjà du mal à suivre ce qui se passe aujourd'hui. Anticiper les supports et les besoins de demain, c'est un gros enjeu. Et le deuxième enjeu, pour moi, il est humain. La fédération, elle vit parce qu'il y a 20 000 bénévoles aujourd'hui.
Oui, j'allais vous poser la question.
Qui sont engagés, qui travaillent, qui vieillissent.
Ils sont notamment impliqués sur le balisage.
Le balisage, la collecte de données, l'écriture des topoguides. Hein, les auteurs des topoguides de la fédération sont des bénévoles sur l'animation des associations, des clubs. Et c'est une population qui ne rajeunit pas. Et qu'effectivement, le gros enjeu des années à venir, c'est qu'effectivement, des nouveaux bénévoles nous rejoignent et envie de s'investir et envie de consacrer du temps, parce que toute notre activité repose sur cet engagement-là. Et que, le bénévolat évolue, on trouve plus facilement de gens qui vont venir aider. Alors voilà, il y a une grande fête ou il y a une grande randonnée, il y a besoin de gens sur une semaine pour donner un coup de collier. Il y a toujours du monde.
On trouve.
Être président d'un comité départemental et à la fois avoir la responsabilité d'une équipe, des relations avec les institutionnels, avec les partenaires financiers, et qui finalement sont pas loin de faire un temps complet de comme quand c'était qu'ils travaillaient, là, c'est plus difficile de trouver des volontaires. Donc ça, c'est un très très gros enjeu pour l'avenir de la fédération. Et je pense pour les autres fédérations, pour le monde associatif d'une manière générale.
Je vous le confirme. Chez nous, pour les radios associatives, je vous le confirme. Bien, mais alors, ce territoire de la Lausanne, vous le connaissiez avant de venir, ou vous allez profiter de cet après-midi
pour... Moi, personnellement, où nous sommes placés, ça me rappelle beaucoup de souvenirs, parce que nous sommes sur la place du théâtre, et il y a une dizaine d'années, la fédération avait fait son congrès à Mende, donc on avait réuni quelques 300-350 représentants de la fédération pour un week-end de travail. Donc au moins la ville de Mende et cette place me rappellent des souvenirs. Très honnêtement, je connais mal en revanche le département, et je vais en profiter.
Vous aurez l'occasion cet après-midi d'aller découvrir tout ça.
Mais
on vous remercie beaucoup d'avoir participé à cette émission. On vous laisse rejoindre le repas, parce que cette émission se fait pendant le temps où les congressistes sont en repas. Et donc, on fait une coupure musicale. Et Caroline, tu m'as fait une demande pour cette coupure musicale.
Mais oui, puisque aujourd'hui, à nouveau, l'actualité nous rattrape, et avec le drame du terrorisme. Et je me disais, moi, c'est une chanteuse que je connaissais pas, je suis bien, bien trop vieille pour la connaître, mais je me disais que écouter aujourd'hui Ariana Grande, c'était avoir une pensée pour Manchester, pour dire que voilà, il se passe des choses dans le monde terribles, mais qu'on ne cède pas à ça, que ce week-end il va y avoir la fête de la randonnée à Mende. C'est une façon de résister à ces barbares, et que voilà, vous savez combien j'y tiens. Donc voilà, on va écouter un peu d'Ariana Grande et je vais découvrir.
Merci Caroline.
Let it snow is blasting now, but I won't get in the mood. Toi, Cyril, plutôt sur le...
Sur la foule.
Oh my God, it's hot as balls. Santa, tell me if you're really bad. She said, not these coins. Not these
coins. What she said? She said, not these coins.
Retrouve pour ce Los Actuali spécial randonnée en direct de l'espace événement Georges Frêche. Alors désolé pour la petite coupure qui a eu lieu pendant la pause musicale. Voilà, et donc on se retrouve pour cette deuxième partie, plutôt autour du festival des randonnées en Lozère. C'est donc du 25 au 28 mai. Bonjour Cyril Duclos.
Bonjour à tous.
Et nous accueillons également autour de la table Michel Roche, auteur à succès de différents photographes aussi.
Grand marcheur devant l'éternel.
Voilà. Et donc, on va d'abord parler avec Cyril peut-être de ce festival des randonnées. Comment est venue finalement l'idée de ce festival des randonnées?
Ouais, c'est une idée que je partageais avec le maire de Mende, Laurent Ciot, qui était on savait qu'on allait accueillir ces assises de la randonnée, qui était un événement destiné aux professionnels. Et l'idée, c'était de se dire bon, c'est peut-être l'occasion ou jamais d'inviter un peu le grand public sur cette thématique-là, et donc on est parti sur le festival des randonnées avec l'idée, c'était d'avoir deux concepts sur la même semaine, un pro comme on l'a actuellement avec les assises, et puis d'enchaîner avec ce festival.
Alors, ce festival, justement, quels sont les grands moments,
Peut-être, on peut revenir peut-être juste sur le concept. Oui. L'idée, c'était effectivement de proposer en journée beaucoup de randonnées autour de Mende et plus largement autour de la communauté de communes Cœur de Lozère.
Alors, des randonnées de toutes sortes, hein, on l'a dit tout à l'heure aussi en préambule, la randonnée, c'est pas que marcher et c'est pas que marcher longtemps.
C'est ça, il y a du longtemps, il y a du plus court, il y a aussi d'initiations, beaucoup d'initiations,
par exemple.
On parle beaucoup de marche nordique, mais on a tous plus ou moins eu une paire de bâtons dans les mains. Mais avant de connaître véritablement l'utilisation qu'on peut faire de ces bâtons et pour gagner du dénivelé et pour apprendre les gens, par exemple, monter du foirail jusqu'à la croix sans jamais s'essouffler deux secondes parce qu'on sait utiliser ces bâtons de marche nordique, là, je crois que c'est des choses un petit peu assez intéressantes, comme on a aussi la course d'orientation, où là, c'est apprendre à se servir d'une boussole et d'une carte, hein, ce qu'on ne sait pas toujours faire. On arrive à peu près à lire des cartes IGN, mais bon, c'est bien aussi d'avoir un peu de pratique de ce côté-là. Donc, c'était de proposer un ensemble un peu plus large aussi que la randonnée, hein, puisqu'on a aussi du vélo, par exemple.
Du vélo, hein, bien sûr. Du vélo électrique. Hein, on a beaucoup parlé de l'assistance électrique dans cette émission.
Voilà, c'est ça. Et après, c'est tout simple. L'idée, c'était de se retrouver tous ici, à l'espace événement Georges Fraîche, et puis de partager des moments un peu conviviaux, donc avec le goûter, bien sûr, hein, qui est pour quand les gens rentreront des randonnées. Et surtout un repas chaque soir à partager tous ensemble. Et puis après, l'idée, c'est aussi d'avoir des intervenants qui viennent un peu nous parler aussi, mais de leurs expériences, de la randonnée, parce que tout le monde ne la vit pas de la même manière. On a des blogueurs, par exemple, qui font de l'itinérance à travers toute la France et même plus loin, hein, puisque quelqu'un comme Sylvain Bazin, qui était la semaine dernière en Thaïlande.
On espère qu'il nous rejoindra pour la fin de l'émission, hein, mais il est en dédicace, là, pour l'instant.
Bon, ben, tant mieux, ça veut dire que déjà, il est à Mende. Donc,
c'est
déjà bien, parce que la semaine dernière, il était encore en Thaïlande, donc... voilà, et l'idée, après, c'est aussi de pouvoir voir des films. Et là aussi, d'avoir des gens qui vont parler un peu de ce qu'ils ont vécu, parce que croyez-moi, quand vous traversez l'Antarctique, par exemple, qui était le cas de ce couple-là, qui d'ailleurs, sa femme est avocate, hein, qui n'était pas destinée à faire ce type d'épreuve, est classée maintenant au Guinness Book, puisqu'elle fait partie des femmes qui ont traversé l'Antarctique. D'avoir des gens comme ça qui viennent nous raconter l'itinérance au long cours, on va dire, hein, parce que là on parle de distances qui n'ont plus rien à voir avec ce qu'on va faire pendant ce festival. Ben voilà, c'est des moments de partage, d'échange et puis d'échange d'expérience surtout. Et
Cyril Duclos, on n'est pas obligé d'avoir marché la journée pour venir participer à ce repas festif et voir ses films, entendre ses conférenciers.
Voilà, c'est ça, c'est aussi le concept, hein, c'est-à-dire que bon, il y a des gens, on peut le comprendre, qui ne sont pas forcément adeptes de la randonnée ou des grandes marches, mais ils peuvent venir le soir pour à la fois participer au repas avec nous et puis surtout participer aux séances de dédicaces aussi, parce qu'on a le jeudi lors de l'ouverture des séances de dédicaces. Et de voir ces films, hein, c'est des films qui marchent très bien, on a pu le connaître sur Grenoble, sur le festival du film de montagne, c'est des films qui sont très prisés et surtout qui ont eu beaucoup de prix, donc des films assez intéressants sur le plan qualitatif aussi, quoi. Et pas simplement, qui ne sont pas là simplement pour relater l'exploit, mais aussi il y a derrière toute une manière de filmer cette itinérance qui est aussi leur lot quotidien, puisqu'ils veulent revenir avec... du film et des bagages pour pouvoir après derrière visualiser tout ce qu'ils ont fait. Donc c'est aussi des gens qui dans ce domaine-là sont assez compétents dans la manière de pouvoir vous faire ressentir et vous faire vivre ce qu'ils ont vécu pendant 6 mois.
Et alors je vois aussi sur le programme qu'il va y avoir un peu en fil rouge ici un camp de base sur cet espace événement avec un salon de la randonnée, une des expos, un espace de livres aussi avec des séances donc de dédicaces. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus, alors sachant qu'il y a une partie qui est aussi mini-libre, alors peut-être que Caroline prendra sa casquette mini-libre pour nous en parler, je ne sais pas.
voilà, c'est vrai qu'on a fait appel au groupe mini-libre, hein, parce que je crois que c'est un peu plus large, au groupe mini-libre pour la partie salon. L'idée de départ, alors bon, c'est vrai que c'était la première année, c'est toujours compliqué, puis on s'y est pris un peu tardivement sur ce salon, mais l'idée c'était aussi de proposer un camp de base avec et de faire venir un peu des équipementiers, qui travaillent autour de la randonnée, etc., pour nous proposer un peu les nouveautés en termes de matériel, etc. Et donc on l'a aussi élargi à bien évidemment au comité départemental touristique et aux offices du tourisme, parce qu'ils ont aussi l'envie de montrer ce qu'ils sont capables de proposer en termes de randonnée. Donc voilà, l'idée c'est pendant toute la journée, puisque les heures d'ouverture sont assez larges, hein, de 10h à 18h, les gens peuvent venir quand ils veulent dans la journée, et de visiter un petit peu tous ces stands et de voir un peu ce qu'ils peuvent nous proposer.
Sur les détails pratiques, si on veut participer à l'une de ces randonnées, alors on a le programme partout en ville, ça y a aucune difficulté. Est-ce qu'il faut s'inscrire? Est-ce qu'il faut pas s'inscrire?
Alors toutes les randonnées sont sur inscription. Il y a encore de la place, surtout pour les plus matinales. Je sais pas pourquoi, c'est comme ça.
C'est bizarre, c'est un long week-end.
C'est ça. Donc vous passez soit à l'office du tourisme, soit vous téléchargez le bulletin d'inscription sur randofestival-mande.com. Et vous pouvez vous inscrire jusqu'à la veille pour la sortie du lendemain, quoi. Donc il n'y a pas de souci, il reste encore des places.
Donc la gourmande et la souterraine sont pleines, par contre,
voilà, on sait déjà qu'il y en a qui ont marché plus que d'autres. Comme par hasard, la gourmande c'est fait, et puis le côté insolite de la souterraine, je crois qu'a marqué un peu les esprits. Et qui celle-là, donc c'est
il reste de la place à la bière.
Il reste de la place à la rando-bière.
Ah, voilà, finalement,
celle-là, en plus, elle est encadrée par l'office du tourisme, donc n'hésitez pas. Et là, c'est pour découvrir en même temps un peu les bières locales du département, et puis peut-être voyager un peu plus en découvrant d'autres bières avec nos partenaires qui est la Servine.
Voilà, il y a aussi une rando nocturne avec Astrolabe, une rando gyropode, voilà, pour ceux qui ont envie de s'essayer à tout ça. Une sortie initiation à la photo avec le photoclub Mandois. Peut-être que ça...
Transition toute trouvée.
Ça parle avec un autre invité. Bon, voilà, donc différentes propositions. Bon, voilà, c'est donc pendant tout ce long week-end. Est-ce qu'on sait déjà s'il y a du monde qui vient de l'extérieur de la Lozère pour participer?
Oui, c'était un peu notre inquiétude, parce que quand on est surtout directeur d'office du tourisme, on a envie aussi d'avoir des touristes et pas simplement faire plaisir aux habitants. Et donc l'idée, c'était aussi d'accueillir des touristes à travers ce festival, et je crois que ça y est, c'est fait, puisqu'on a des bulletins d'inscription qui nous sont arrivés d'Avignon, Carpentras, Montpellier, donc Issoire, et puis Clermont-Ferrand, donc voilà. Alors, je ne sais pas dans lesquelles proportions exactement, mais on sait déjà qu'on a des bulletins d'autres départements que celui de la Lozère.
Le rayon de 3 km de 3 heures autour de la Lozère fonctionne bien, donc.
Oui, c'est celui-là, c'est notre bassin de clientèle, et puis c'est le tourisme de proximité, comme on l'appelle, qui est de 2 à 3 heures, quoi.
Bon, voilà, on vous rappelle, donc vous pouvez retrouver toutes les informations donc auprès de l'office de tourisme intercommunal Cœur Lozère, donc 04 66 94 00 23 et randofestival-mande.fr. Voilà, vous avez toutes ces infos, et puis évidemment plein de flyers sur ce festival des randonnées qui sont disponibles en ville. Merci beaucoup.
Merci. Le tourisme restera ouvert pendant ces 4 jours
ou... On va essayer.
Oui, c'est toujours compliqué d'être au four et au moulin.
C'est ça.
En tous les cas, il y aura un accueil ici.
Oui, de toute façon,
voilà.
L'accueil sera délocalisé, s'il faut, à l'espace événement en rez-de-chaussée.
Très bien, merci.
Merci à vous.
Alors, un des événements de ce festival des randonnées, c'est la sortie d'un guide de randonnée autour de Mende et de son bassin de vie Cœur de Lozère. Michel Roche a une nouvelle fois ouvert. Alors moi, j'aime bien l'image de sa corne d'abondance. Michel Roche, chez lui, il a une corne d'abondance qu'il ouvre régulièrement et de laquelle sortent des randonnées avec de superbes photos dont il fait profiter la Lozère, les Lozériens, et bien au-delà, très très généreusement. Donc 22 randonnées là, je crois, Michel.
Oui, merci. Donc, j'ai sorti du fond de la corne d'abondance, comme tu dis si bien, 22 itinéraires que j'ai essayé de caler à l'intérieur de la superficie de la communauté de communes. C'est pas facile parce qu'elle a une forme un peu bizarre, mais bon, puis c'est pas un problème si on déborde un peu chez les voisins. Avec un petit sourire, tout le monde a été content. Donc oui, ce sont toutes des randonnées que j'ai faites, que je connais, sur des chemins ouverts. Le balisage n'est pas pris en compte parce que c'est quelque chose qui est plus assez simple d'une manière générale, mais j'ai essayé de trouver quelque chose qui soit un appelant, un thème, et souvent insolite. Bon, un lieu que même les Mandois des fois ne connaissent pas, alors qu'ils l'ont à leur portée. L'objectif étant de permettre de donner à celui qui vient passer une semaine à Mende, en Lozère, ou en tout cas à proximité, ou dans la communauté de communes, ou à côté, de prendre ça comme un catalogue, un recueil d'idées, en fonction de la météo, de ses enfants, de la situation dans laquelle ils se trouvent. Il trouvera, j'ai fait un éventail assez large, hein, dans les 22, autant qu'on peut, parce que c'est pas grand-chose, 22. Voilà, donc le guide comporte l'itinéraire décrit en texte, la carte hygiène, puisque la communauté de l'office de tourisme a pris les droits d'auteur de la carte, qui est reproduite dans le guide, le tracé sur la carte, ainsi que quelques photos de l'itinéraire ou typées du secteur. Voilà. Moi, c'est un énième guide dans le domaine. J'aurais jamais cru un jour que j'écrirais autant. Mais en définitive, je pense que si je suis là autour de la table, c'est parce que j'ai eu beaucoup de chance. D'abord, la chance d'être lozérien, parce que pour moi, nous qui vivons ici et qui savons à mesurer les qualités, nous avons une belle qualité de vie et de beaux paysages autour de nous. La chance d'avoir mon métier pour pouvoir vivre ici et le choix d'y rester, et puis la chance d'avoir une bonne santé qui me permet, après la période d'activité, de partager toutes ces expériences que j'ai accumulées au fil du temps, et aussi la chance d'avoir une bonne mémoire qui m'a permet de les reconstituer et de remplir la corne d'abondance, comme dit Sourire. Voilà. Je peux ajouter qu'il y a une autre chance qui est importante dans cette accumulation de données, on va dire, c'est la photographie. J'ai la passion de la photo depuis mon enfance. À 13 ans, on m'a offert un appareil, 12 ou 13 ans, on m'a offert un appareil photo à l'époque, je pense que c'était pour la communion solennelle, comme ça se faisait. J'ai développé moi-même la bobine et les photos en planche contact. Et depuis cette période-là, la passion ne m'a pas quitté. Donc, la randonnée et la photo vont bien ensemble, c'est sûr. L'une peut avoir donné envie à l'autre. On part randonner et on ramène des photos. Mais on part faire des photos. Moi, il m'arrive maintenant de partir pour faire des photos.
Et en fait,
alors qu'avant, je partais pour randonner. Je faisais les photos à l'occasion de la randonnée. Maintenant, je pars, mais je randonne moins quand même.
Et donc, ces photos, on en retrouvera, j'imagine, dans le
livre. Il y en a pas mal, plusieurs dizaines en tout. Hein. Dans le DVD que j'ai sorti de 100 randonnées en Lozère, il y en avait 1250. Donc, j'ai une masse de données et d'informations qui est importante, que stocke l'ordinateur. Là, c'est pas ma mémoire.
Bon, ben voilà, donc une occasion de découvrir.
La dédicace est quand, Michel?
Alors, on dédicace jeudi à 18h30, jeudi soir, ici même, à l'espace événement. Et je dédicacerai aussi à l'occasion les livres de photos j'ai faits pour le compte de la Ligue contre le cancer. Oui, puisque tous mes guides sont donnés... Ma table, quand je m'assois, elle est garnie, donc ça me suffit, je ne veux pas plus.
Et peut-être vous participerez à l'une des balades.
J'ai pas, comme j'ai beaucoup travaillé pour préparer le livre, j'ai demandé une excuse.
Même pas la sortie photo.
Ah non, mais la sortie photo, peut-être j'irai donner un coup de main aux amis du photoclub, encore que j'aurai beaucoup de leçons à prendre. Mais oui, je pense quand même que j'essaierai d'en faire une ou deux dans le lot, là. Il n'y a pas de souci. Mais je n'ai pas j'ai participé à l'encadrement des randonnées. D'accord. J'ai laissé faire ça à l'autre. J'ai été assez bousculé par la préparation du bouquin.
Un petit coup de cœur sur une randonnée lozérienne?
Ah, d'ici. En partant de Mende, oui, j'ai un coup de cœur pour celle de Mende. Elle part de l'office de tourisme, là. Elle monte par la Ravenne. C'est une randonnée à la journée, hein, mais que je conseillerais aux amis mandois qui ont encore un peu de jambes. Ils peuvent la couper d'ailleurs s'ils veulent pas tout faire, mais partir de l'office de tourisme, elle monte par la Ravenne des Pigeons, là, derrière. Elle passe ensuite sur les lieux du tournage de la
Drôme.
Elle va ensuite rejoindre le Ravenne de ce qu'on appelle le Ravenne de Malaval. Elle va faire un petit saut jusqu'à Chapieux, la vieille ferme. Petit clin d'œil, ma maman y est née, ça n'a rien à voir. Mais
je sais que c'est un endroit fétiche.
J'y étais un peu, mais enfin, ceci dit, c'est une belle ferme cossonarde qui est typée. Et puis, redescente sur le ravin derrière, on appelle le ravin de la Valette, ou le ravin des Enfers, par-dessus les Enfers. Retour par Fontanille, et ensuite, et là c'est un petit peu original, parce que les randonneurs suivront le Lot depuis Fontanille, depuis le pont Paulin-Daudet, jusqu'au pont, jusque carrément au pont de la planche mais, et au pont Notre-Dame. Et là, ils monteront direct à travers la vieille ville, ce qui fait qu'ils vont découvrir à la fois les berges du Lot, partir, visiter le Causse et revenir en, visitant, en remontant le Lot par le beau sentier qui longe la rivière et remonter par la vieille ville et découvrir, avant d'arriver à l'office du tourisme, le patrimoine de la ville. Voilà, c'est ça, c'est mon petit coup
de
cœur.
Je ne suis pas surprise. Voilà. Et alors, pour ceux qui regretteraient de ne pas faire une rando là, dans les 4 jours avec Michel Roche, il y a la possibilité d'aller en faire une le 25 juin sur le Mont-Lozère pour la transhumance ovine.
Que c'est gentil de rappeler ça, oui. Oui, d'ailleurs, je me serais fait tirer les oreilles par les amis tous bénévoles qui animent cette journée. Il y a une grande fête le 25 juin sur le Mont-Lozère, sur l'espace de la station. Avec le matin une randonnée où nous allons voir lever le soleil en haut du
tout le matin
du Mont-Lozère, tout le matin, parce que oui, nous partirons de la station vers 3h et quelques du matin. Et puis, si nous, la météo est bonne, nous jouirons du spectacle magique du lever de soleil du Mont-Lozère. On voit le Ventoux, on voit les Alpes, c'est extraordinaire. Et puis, on redescend vers 7h30 et pour respecter les traditions, on se fait un petit déjeuner, nous on dit ça un petit déjeuner à l'ancienne, c'est-à-dire l'omelette au cèpe, un peu de fricando, saucisse, etc., pour prolonger la convivialité du moment. L'an dernier, malgré le mauvais temps, nous étions une 60aine de personnes. Or, si espérons cette année, c'est ouvert à tout le monde et c'est gratuit, bien entendu.
Voilà, et les moutons arrivent ensuite
en fin
de matinée.
Le troupeau de moutons qui transhume arrive vers 11h, 11h30 sur les plats. Et alors, la plateforme sera animée toute la journée par... beaucoup d'exposants tout autour du mouton ou du rural, de la ruralité. C'est une belle fête familiale.
Les moutons arrivent de Prévenchère.
Les moutons font Prévenchère le Mont-Lozère.
Le Mont-Lozère où ils passent l'été normalement.
Ils viennent s'installer pour l'été, ils viennent prendre les vacances.
En espérant qu'ils ne soient pas trop gênés par le prédateur du secteur.
Exact. Ah, voilà. C'est bon.
Très bien, bah merci beaucoup,
merci Michel
Roche. Donc on retrouve à partir de jeudi, hein, je crois, la livraison. Et...
oui, c'est ça, hein, c'est encore sous presse. Hein. Voilà. Il y a de la pression.
Et donc on vous rappelle pour toutes les infos et les inscriptions, l'office de tourisme intercommunal 04 66 94 0023 et randofestival-mande.fr, voilà, pour ce premier festival des randonnées en Lozère du 25 au 28 mai 2017. Merci Caroline d'être venue.
Merci Guillaume.
D'être venu avec moi pour cette émission spéciale de randonnée de notre émission Lose Actualier. On se donne rendez-vous dans 15 jours pour une vraie émission.
J'avais un petit clin d'œil que j'avais amené exprès. Dis-moi si tu sais qui a dit « En vérité, je ne voyage pas, moi, pour atteindre un endroit précis, mais pour marcher, simple plaisir de voyager. » Allez, c'est facile en Lozère.
Stevenson.
Mais oui, voilà.
Merci Caroline.
Bonne marche à tous.
Merci à vous. Merci.
Lose Actuali, votre nouveau rendez-vous sur 48FM.
Lose Actuali.
Bienvenue dans la rue Passe.
Oui, donc c'est pour ça que c'est le journal du sud de la France.
Hashtag, c'est parti.